Cette émission vous est présentée en collaboration avec la Fondation Lionel Groulx et Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Dix journées qui ont fait le Québec, c'est 10 dates clés qui vous permettent de retracer les grands moments de notre histoire. Aujourd'hui, le sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bock-Côté, nous raconte ce qui a rendu possible la tenue du référendum sur la souveraineté du Québec le 30 octobre 1995. Bien que le oui frôle la victoire, le non l'emporte et le Québec en ressort profondément divisé. Quelles sont les personnes, les idées et les mouvements politiques à l'origine des référendums de 1980 et 1995? Quel rôle joue le fédéral avant, pendant et après ces deux campagnes référendaires? Quelle est l'évolution de la question nationale depuis le début du 20e siècle? Et où en est rendu le camp du oui maintenant? Décryptage. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter le conférencier de ce soir. Il est sociologue. Chroniqueur bien connu au Journal de Montréal, je vous prie d'accueillir avec chaleur et enthousiasme M. Mathieu Bock-Côté.
Alors, bonsoir à tous. Merci infiniment d'être là pour cette conférence qui porte effectivement, je crois, sur la plus fondamentale des questions fondamentales, c'est-à-dire notre avenir politique, notre avenir national, la question nationale québécoise. Alors, rien n'est plus exigeant intellectuellement que de penser une époque, que de voir derrière les brumes de l'actualité les trames lourdes, la trame lourde qui peut être celle d'un peuple. Rien n'est plus important, finalement, que de penser non seulement au jour le jour ce qui nous arrive collectivement, mais de penser simplement le destin collectif. Notre histoire de 1960 au début des années 2000 ne peut-elle pas être vue dans son ensemble comme le tableau d'une lutte acharnée portant sur la résolution de la question nationale, la recherche d'un nouveau statut politique pour le Québec, mobilisant les énergies les plus profondes de la nation, et la lutte pour l'indépendance ne représente-t-elle pas la forme achevée de cette quête nationale? La question nationale, pendant cette époque, était centrale, et surtout à travers le débat constitutionnel, nous avions une emprise sur elle. Elle ne fuyait plus dans les marges de la vie politique ou dans les replis intimes de la conscience collective. La question du statut politique du Québec était celle à partir de laquelle se polarisait l'espace politique, comme si celui-ci s'était reconfiguré avec l'arrivée de la Révolution tranquille pour enfin prendre en charge ce que René Lévesque avait appelé cette vieille obsession collective. Pendant près de 4 décennies, le peuple québécois, fondamentalement, n'a parlé que d'indépendance et a écrit son histoire à l'encre de la question nationale. Si on la prend avec un peu de hauteur, on peut dire que c'est en 1995 que la question nationale s'est posée le plus clairement, le plus nettement. Jamais l'idée d'indépendance n'est venue aussi près de s'accomplir. Aussi près. Régis Debré, grand intellectuel français, a déjà écrit dans un autre contexte « J'aimerais seulement comprendre un jour nos occasions manquées ». Inévitablement, la réflexion sur le référendum de 1995 tourne autour de ce problème. Pourquoi les souverainistes ont-ils échoué? Pourquoi le peuple québécois a-t-il échoué? Car le référendum de 1995 représente un moment politique exceptionnel, au sens fort du terme. C'est un événement majeur dans l'histoire qui a changé son cours, pour le meilleur ou pour le pire, selon les préférences de chacun. C'est un moment qui pose la question politique la plus fondamentale qui soit, celle de la constitution d'un État, de la fondation d'un nouvel ordre politique, de l'indépendance nationale d'un peuple. Dans la mesure où la participation au destin de la cité touche une part indispensable et indépassable de la condition humaine et de l'âme humaine, on peut dire de ceux qui ont vécu le référendum et la marche vers l'indépendance qu'ils auront vécu à une époque où l'histoire ne s'était pas laissée avaler par le présentisme gestionnaire, par la politique au jour le jour. C'est le propre des grands moments politiques. Ils mobilisent les grandes passions, ils incitent au dépassement, Il pousse les meilleurs hommes au cœur de la cité. Chacun s'entend bien que lorsque l'histoire vacille, la volonté d'un homme ou de quelques hommes peut faire basculer le destin de la cité, peut orienter d'une manière définitive et décisive le destin, le vivre ensemble. En fait, les grands moments politiques, les moments existentiels, révèlent les caractères, ils dévoilent les profondeurs de la cité et la psychologie d'un peuple, ses aspirations les plus profondes comme ses craintes les plus tenaces. D'un coup, les hommes sortent des soucis quotidiens et sont amenés pour un temps, mais pour un temps seulement, à se demander quelles sont les assises, de leur existence collective. Le 30 octobre 1995, l'indépendance du Québec a été défaite. Mais ce n'est pas qu'un projet politique parmi d'autres qui a été vaincu. Ce n'est pas une idée sur deux qui a été mise de côté. C'est l'expression la plus profonde de la pulsion de vie du peuple québécois qui a été étouffée. La chose n'est pas sans conséquence, car je l'ai dit, le référendum était le point d'aboutissement d'une marche entreprise plusieurs décennies auparavant. Je vous raconterai la journée du référendum. Je vous parlerai des héros de chaque camp, des moyens déployés, des couches de la population mobilisées par les tenants du souverainisme ou du fédéralisme. Je vous parlerai d'un Québec qui découvrait l'exercice de la raison d'État et d'un Canada qui n'a aucunement hésité à en faire usage pour mater la tentation indépendantiste. Je vous parlerai de la propagande des uns et des autres. Je vous parlerai en fait d'un peuple qui faisait l'expérience la plus profonde du politique. Mais pour bien conter cette histoire, je devrais remonter un peu plus loin dans le temps, explorer avec vous ses origines. Je devrais remonter à la fin des années 1910, quand le nationalisme canadien-français connaissait à la fois une renaissance et une mutation. Il nous faut aller bien avant la Révolution tranquille pour remonter aux sources idéologiques et existentielles du référendum de 1995. Oui, il nous faut comprendre que le rêve de l'indépendance du Québec demeure encore bien mal connu, que cette histoire qui nous semble si familière ne l'est pas véritablement. Nous devons remonter bien avant la Révolution tranquille pour comprendre comment et pourquoi la société québécoise, le peuple québécois, s'est remis un jour à espérer l'indépendance, s'est permis de transformer cet idéal en projet et a joué son destin sur cette idée. Alors, je le dis, l'aspiration à l'indépendance traverse l'histoire du Québec. Quoi qu'en disent les révolutionnaires tranquilles, elle n'a pas émergé d'un coup sans prévenir en 1960, non plus qu'elle a été importée un peu sottement des peuples décolonisés, l'indépendance devenant alors, selon ce récit, une mode à laquelle la jeune génération adhérera et dont on pourrait finalement se passer sans que ça ait quelques conséquences. Bien au contraire, on peut dire de l'aspiration nationale à l'indépendance qu'elle représente un désir constamment repérable dans l'histoire du Québec, qui remonte à la surface de temps en temps, lorsque la vie politique devient houleuse, et qui a longtemps représenté une tentation pour la jeunesse, comme l'ont noté chacun en leur temps, André Laurendeau ou Marcel Chaput, qui se désolait ou se réjouissait, dans un cas ou dans l'autre, que chaque nouvelle génération se demande, naisse à la politique en se posant la question suivante, « Mais pourquoi ne sommes-nous pas un État souverain? » Ensuite, ils comprennent apparemment. Mais la question première à partir de laquelle on accède à la vie politique au Québec pendant très longtemps, du moins chez les franges les plus travaillées par le destin national dans la population, c'est bien évidemment « Pourquoi ne sommes-nous pas encore indépendants? » On pourrait dire que c'est avec la Révolution tranquille que le vieux rêve de l'indépendance est devenu idée et que cette idée est devenue projet. Mais le désir d'indépendance a longtemps été refoulé. Il n'a souvent survécu que dans les marges de la vie nationale, porté par des mouvements ou des groupes qui circulaient à la périphérie de l'espace public. De temps en temps, l'idée surgissait au moment d'une crise politique. Un homme politique exaspéré par le traitement réservé au peuple canadien-français dans la Confédération pouvait, le temps d'un discours, brandir la menace de l'indépendance pour aussitôt expliquer qu'il ne s'y engagerait pas. Cela a été le cas d'Alexandre Taschereau, fédéraliste convaincu s'il en était un, mais qui a pris au sérieux l'idée d'indépendance en l'inscrivant dans l'éventail des options légitimes pour le peuple canadien-français. Tout comme cela a été le cas de Maurice Duplessis dans les années 50, qui évoquait devant les membres apeurés de son cabinet la possibilité qu'un jour, le lien fédéral puisse être rompu. Il faudrait bien un jour, d'ailleurs, écrire l'histoire de la tentation de l'indépendance au Québec, en explorant les couches les plus profondes de notre conscience historique. Pourtant, reprenons la fin des années 10 dont je parlais, au lendemain de la Première Guerre, l'idée d'indépendance amorce une renaissance appelée à durer. Pourquoi? D'où vient la renaissance du nationalisme qui sera visible véritablement à partir des années 1920? Comment expliquer qu'à partir des années 20, on voit germer les éléments de ce qui s'appellera 40 ans plus tard la Révolution tranquille, pour peu qu'on ne réduise pas celle-ci à une modernisation socio-économique comme les autres, pour peu finalement qu'on ne la dénationalise pas? Cette renaissance, elle vient d'un constat. Et il faut encore une fois remonter le cadran historique de quelques décennies pour le comprendre, et surtout pour en comprendre toute la portée philosophique, comme quoi on ne comprend bien l'actuel qu'en remontant le cadran historique assez loin quand même. Cette étrange manie d'expliquer l'actuel par l'actuel relève du pire des ethnocentrismes, celui de l'enfermement dans le présent. Après l'échec du gouvernement Mercier, qui brandissait à sa manière l'idéal d'un État français, à la fin des années 1880, le mouvement nationaliste canadien-français s'investira dans un idéal, ou d'un idéal, qui avait pourtant l'allure d'une étrange chimère. Cet idéal, ce sera la construction de la nation canadienne. C'est un idéal qui est principalement associé à la figure d'Henri Bourassa. D'une nation pan-canadienne qui reposerait sur un double abandon. Les Anglais cesseraient de se définir d'abord comme des Britanniques et deviendraient des Canadiens, des Canadiens. Les Canadiens français ne s'identifieraient plus d'abord à leur repli québécois. Ils prêteraient et feraient serment d'allégeance au Canada. D'ailleurs, un nouveau slogan s'imposera chez les nationalistes canadiens français, l'indépendance du Canada. C'est à travers, on en parlait ces jours-ci dans l'actualité d'une manière ou d'une autre, c'est à travers elle que ce nouveau pacte canadien pourrait se signer. Une nationalité nouvelle devait en sortir. Chimère ou idéal, à chacun d'en juger. Mais le fait est que cet idéal n'a jamais passé le test du réel. La réalité canadienne reprenait rapidement ses droits. Et cette réalité, c'était celle d'un peuple qui en avait conquis un autre et qui n'entendait pas renoncer à ses droits de conquête. Le Canada était un pays britannique et entendait le demeurer. La chose était visible dans les nombreuses tentatives pour assimiler les francophones dans les nombreuses provinces anglaises. Et la volonté de refouler le fait français dans la seule province de Québec, qui sera présentée d'ailleurs comme, par Fernand Dumont comme la réserve québécoise, la réserve qu'on acceptait bien de nous consentir en échange de notre discrétion. C'est à cette époque que le nationalisme canadien-français fixera son attention sur la querelle des droits scolaires, partout contestée à la grandeur de la Fédération, les droits scolaires des francophones étant contestés dans chaque province canadienne. Mais plus encore, on le voyait, donc, l'échec de ce rêve, la fracture de cet idéal pan-canadien sur la réalité canadienne, on la voyait dans la politique étrangère canadienne, systématiquement alignée sur celle de l'Empire. De la querelle de la loi navale à celle de la guerre des Boers, en se rendant jusqu'à la Première Guerre mondiale, le Canada rappellera aux Canadiens français, comme Henri Bourassa, qu'il n'acceptait pas de se dissoudre dans un fantasme de réconciliation. Le Canada demeurerait le pays de sa majorité anglaise et les Canadiens français devraient accepter cet état de fait. Et plus encore, pourquoi pas, s'enthousiasmer et prêter serment à la couronne qui aurait historiquement garanti leurs droits. C'est au moment de la Première Guerre mondiale que l'aversion envers les Canadiens français s'exprimera de la manière la plus hargneuse. Partout au Canada anglais, on accusait les Canadiens français, qui ne voulaient pas nécessairement être conscrits dans les armées de l'Empire, de déloyauté, et certains en appelaient même une sévère répression contre eux. Au Québec, le message sera entendu. On ne voulait pas de nous? Parfait, nous pouvions toujours partir. La motion Francoeur, dont on a un peu perdu la trace historiquement, mais qui est intéressante, présentée à l'Assemblée législative en 1918, l'ancien nom de l'Assemblée nationale, marque l'enregistrement politique d'une rupture profonde entre le Canada et le peuple québécois. J'en rappelle le texte qui avait la vertu d'une certaine clarté, 1918, que cette Chambre est d'avis que la province de Québec serait disposée à accepter la rupture du pacte fédératif de 1867 si dans les autres provinces, on croit qu'elle est un obstacle à l'union, au progrès et au développement du Canada. 1918. La motion ne sera pas votée, mais elle consacre le retour de l'idée d'indépendance dans la politique québécoise et révèle la nature profonde de la renaissance nationaliste qui s'annonce. Chez les nationalistes, c'est le temps de faire le bilan du Canada, qui apparaît assez naturellement comme un pays étranger, qui apparaît comme le pays qui ne sera pas le nôtre. C'est autour de la figure de Lionel Groulx que se cristallisera ce renouveau intellectuel et populaire du nationalisme. On a dit beaucoup de mal de Groulx ces dernières années, d'autant plus, on le diabolisait d'autant plus qu'on ne le lisait pas, mais l'habitude est récurrente en ces matières. On a oublié l'essentiel, loin d'être le diable dont on parlait, Lionel Groulx est probablement le père fondateur de la Révolution tranquille sur le plan intellectuel et national, ou du moins un de ses grands, un de ses très grands inspirateurs.
Voici un extrait de ce qu'écrit le chanoine Groulx en 1964 dans son ouvrage « Chemin de l'avenir ». Avoir les mains libres, être maître chez soi. Mais comment? Trois thèses s'affrontent. L'une qui tient au maintien de la Confédération actuelle, mais quelque peu transformée. En fait, soutient cette école, rien n'empêcherait le Québec de s'y ménager une autonomie proche de l'indépendance. Et ce serait la coexistence pacifique de deux nations dûment assurées par des textes nouveaux et plus explicites que les anciens. L'autre thèse, solution moyenne, penche plutôt vers une fédération d'États associés, dont l'un serait le Québec et l'autre le Canada anglo-canadien. Deux États, maîtres chez soi, reliés par un lien fédéral aussi ténu et souple que possible. Point de paix assuré au Canada tant que deux nations trop différentes par la culture et par l'histoire se verront forcées à cohabiter sous les mêmes institutions politiques. La troisième thèse, plus radicale d'apparence, n'aperçoit d'autre issue que l'indépendance totale de l'État québécois. 100 ans de confédération auraient démontré péremptoirement la nocivité mortelle du régime. S'y astreindre plus longtemps, se plier à ces fatales entraves, au lourd poids et au déséquilibre de 9 États contre 1, c'est délibérément pour le Québec s'acheminer vers le suicide.
Il est étrange que la conscience historique québécoise n'ait pas retenu ce bouillonnement initial. Ce bouillonnement primordial lorsqu'elle pense à sa marche vers l'indépendance. Peut-être parce que la vague qui commence est souvent portée par des prêtres, comme quoi le nationalisme est peut-être aussi une foi. D'une certaine manière, cet oubli du bouillonnement primordial qui nous conduira à la renaissance nationaliste est peut-être le signe d'un certain oubli du passé, pour ne pas dire d'une certaine détestation du passé chez les Québécois. Quoi qu'il en soit, on peut en retenir une conclusion certaine. L'indépendantisme n'est pas qu'un modernisme, et le nationalisme de la Révolution tranquille trouve ses origines à l'intérieur même de la société québécoise. D'ailleurs, c'est aussi lors de la commémoration des 50 ans et plus encore des 60 ans de la Confédération que les nationalistes briseront l'unanimité, l'unanimisme même, en soutenant, selon les mots du chanoine Groulx, que la Confédération, loin d'être une association politique bienveillante pour les Canadiens français, avait radicalisé leur dépossession collective. Après l'éveil indépendantiste des années 20, on assiste à la traduction du nationalisme dans un programme politique nouveau, qui sera notamment celui de l'Action libérale nationale et qui fécondera aussi en partie celui de l'Union nationale, qui l'absorbera et lui succédera. La formule venait encore une fois de l'abbé Groulx, « Notre État français, nous l'aurons ». Le Bloc populaire, lui-même, poussera plus loin cet élan national dans les années 40, au moment de la guerre, en cherchant à constituer, du moins partiellement, un point de vue spécifiquement québécois, sur les affaires internationales, qui étaient encore une fois occultées par l'impérialisme britannique. Avoir son propre point de vue sur les affaires du monde, encore une fois, on touche, sans la nommer directement par ailleurs, à la question vitale de la souveraineté. Même pendant les années 50, le nationalisme poursuivra sa poussée intellectuelle. Beaucoup de travail avait été mené chez les héritiers du groulxisme, qui mirent au point la première école de Montréal, au HEC, en cherchant à développer un programme économique et social pour lutter contre l'infériorité des Canadiens français. C'est notamment là que se développera une forme de nationalisme d'État canadien-français qui s'exprimera dans les travaux de la Commission Tremblay et dont une des grandes figures, une figure les plus éminentes, François-Albert Anger, sera le professeur et le formateur d'un dénommé Jacques Parizeau. Une filiation que ce dernier ne reniera jamais d'ailleurs. Lorsqu'il deviendra chef du Parti québécois en 1988, il demandera à François-Albert Anger de le présenter devant les membres de son parti, ce qui était une manière quand même de marquer une filiation et une fidélité. J'ajoute qu'au cours des années 1950, le nationalisme avait même enclenché sa modernisation, sa mutation et peut-être sa radicalisation chez les historiens de l'École de Montréal, qui transformèrent la possibilité historique de l'indépendance en nécessité politique. Maurice Séguin, Michel Brunet et Guy Frégaud recentrèrent la lecture de l'histoire sur le traumatisme fondateur qu'est la conquête, pour nous inviter à revisiter notre histoire à partir du concept d'agir par soi collectif. C'est-à-dire revisiter notre histoire à partir du concept suivant, un peuple n'est véritablement libre que s'il est maître de son destin, penser l'histoire du Québec à partir de cette absence. Alors pourquoi vous ai-je parlé de tout cela? Pourquoi ai-je remonté aussi loin dans l'histoire pour arriver j'y arrive, à la Révolution tranquille. Pour que l'on comprenne bien une chose, l'idée d'indépendance n'est pas une invention de la Révolution tranquille. Plus encore, cette dernière trouve ses sources vivantes chez des nationalistes dont plusieurs aujourd'hui seraient plus ou moins gênés, tellement le souverainisme contemporain s'est aseptisé et a honte de ses origines. Avec la Révolution tranquille, l'indépendance bourgeonne un peu partout. Elle s'était déjà incarnée dans l'Alliance laurentienne de Raymond Barbeau dès 1957, puis dans l'ASIC de Raoul Roy en 1960, et bien évidemment au Rassemblement pour l'indépendance nationale, qui diffusera l'idée nationale avant de se fracturer lui-même en plusieurs groupes et sous-partis, comme quoi la tendance à la fraction des indépendantistes n'est pas nouvelle. On ajoutera que l'indépendance est aussi à l'origine de certains succès éditoriaux de ces années, « Pourquoi je suis séparatiste » de Marcel Chaput étant certainement le plus connu d'entre eux. Mais surtout, au-delà même des groupes directement engagés dans la promotion de l'indépendance, cette idée est discutée de plus en plus officiellement dans l'espace politique. Chacun devant de plus en plus se positionner explicitement par rapport à elle. Elle fait son chemin au Parti libéral, à l'Union nationale, chez les créditistes même. On s'en inquiète à Ottawa. Autrement dit, c'est comme si une digue avait lâché, qu'un interdit n'existait plus et qu'il n'y avait rien de plus urgent désormais que de parler de cette tentation, de cet espoir, de ce désir et peut-être même de ce projet qui s'appelle un pays. Mais plusieurs nationalistes feront pourtant un constat. Réformer le Canada, certes, mais l'ordre canadien est fondamentalement irréformable. Dès le milieu des années 60, ils en ont la conviction, le Québec est engagé dans une lancée qui ne doit plus s'arrêter. Les Québécois font l'expérience du pouvoir et constatent qu'ils ne sont pas plus fous que d'autres. Les Québécois constatent qu'ils peuvent se gouverner eux-mêmes et que la construction d'un État national à Québec ne devrait pas s'arrêter à mi-chemin. Cela les amenait à s'ouvrir à la vieille aspiration à l'indépendance. René Lévesque le renifle, lui qui avait l'intuition politique particulièrement sensible, et fera le pari de s'en emparer. Il sera suivi par bien des Québécois qui voient encore chez lui le héros de leur émancipation. Enfin, c'est l'avis de plusieurs Québécois, parce qu'il y en a d'autres qui feront le pari contraire et s'envoleront vers Ottawa pour casser la dynamique nationale québécoise et faire la guerre au séparatisme. Vous connaissez l'histoire des Trois Colombes? Pierre Trudeau, Gérard Pelletier, Jean Marchand. Elle nous rappelle que le régime fédéral, au fil de l'histoire, a engendré chez une frange de nos élites un désir de désaffiliation envers le peuple québécois. C'est une perversion du régime canadien, en effet, de casser la cohésion nationale québécoise en laissant croire que l'ouverture sur le monde est le privilège exclusif du Canada, alors que le nationalisme québécois serait nécessairement synonyme de fermeture et de repli identitaire. Mais j'en reviens au PQ, à ce parti qui portera l'idéal de l'indépendance. Sa création en 1968, par un René Lévesque déjà héros de la Révolution tranquille, marque le passage de l'indépendantisme protestataire au souverainisme à la recherche de pouvoir, qu'il doit conquérir, exercer, pour casser ensuite le lien fédéral. La création du PQ marque l'accélération de la marche vers l'indépendance et confirme sa conformité avec la légalité démocratique. Surtout, il coalise différentes sensibilités nationalistes et laisse dans ses marges l'indépendantisme de rupture qui semble n'aimer l'indépendance qu'à condition qu'elle soit révolutionnaire. On retrouve donc au PQ le centre-gauche réformiste du MSA, le Mouvement Souveraineté Association, et la droite nationaliste et conservatrice du Ralliement National, des nationalistes d'un peu partout finalement. Les gens du RIN s'y joindront quelques jours plus tard après avoir sabordé leur parti. Ils rejoindront le Parti québécois sur une base individuelle. Lévesque est convaincu d'une chose. L'indépendance du Québec est celle d'un peuple qui commence à s'embourgeoiser et qui ne veut pas confondre la lutte nationale et la pulsion de la guerre civile. Il cherchera même à en modérer l'expression à travers la thèse de la souveraineté association qui était censée représenter la formulation raisonnable et pragmatique du désir d'indépendance. L'indépendance, selon Lévesque, doit donc s'accompagner d'un nouveau pacte avec le Canada. Je vous évite le récit bien connu de son ascension. 23 % et 7 députés en 1970, progression électorale en 1973 avec 31 % bien que la députation du PQ perde un membre. Trois ans plus tard, c'est la victoire, le 15 novembre 1976, la belle nuit du 15 novembre, selon la formule de Félix Leclerc. Le PQ fait 40 % tôt ou tard, il y aura un référendum sur la souveraineté. Plutôt que tard, on l'espère. On sait bien que les choses ne se sont pas passées comme on l'avait prévu. Chargé d'un mandat réformateur qu'il accomplira en bonne partie, le gouvernement Lévesque se présentera épuisé et dévitalisé au référendum, quatre ans plus tard, sans même avoir préparé les troupes pour le gagner. Le référendum de 1980 sera désastreux. Non seulement il n'était pas préparé, mais les souverainistes ne pensaient même pas le gagner. Le référendum de 1980 correspondait davantage à une promesse morale faite par Lévesque aux électeurs qu'à une stratégie bien établie pour faire l'indépendance. Plus encore, la souveraineté association révélait pleinement le piège qu'elle contenait. Il suffisait de rendre la souveraineté conditionnelle à l'association pour donner d'un coup au Canada un droit de veto sur l'indépendance et ses modalités. 15 ans plus tard, Jacques Parizeau ne voudra pas répéter cette erreur, d'ailleurs, et dégagera l'indépendance du piège associationniste.
Pour Pierre Bourgault, la question référendaire n'avait plus rien à voir avec le mandat premier du Parti québécois. Voici ce qu'il en dit publiquement en décembre 1979. « La question est claire. Il s'agit d'un mandat de négocier la souveraineté et l'association. Ce n'est pas, en dépit de ce qu'affirment clairement le Livre blanc et le programme du Parti québécois, un mandat de réaliser la souveraineté et de négocier ensuite l'association. » Quoi qu'en dise l'évêque, cela veut dire que tout est négociable, y compris notre droit à l'autodétermination. Quelle stratégie inouïe! Si j'étais fédéraliste, cette question me ravirait. Dans le Devoir du 21 août 1980, Bourgault va plus loin. Comment expliquer une campagne référendaire pendant laquelle les fédéralistes furent à peu près les seuls à parler de souveraineté, pour en dire du mal, bien évidemment? Et comment expliquer autrement la prochaine campagne électorale où il ne sera question que du bon gouvernement provincial pendant que l'idée de souveraineté sera de nouveau évacuée pour être remplacée par celle qui s'inscrit bien dans la ligne de la Révolution tranquille, la bonne gestion du pouvoir provincial? Pour Pierre Bourgault, l'évêque a de bonnes chances de perdre son référendum, non parce que la question va trop loin, mais parce qu'elle ne va pas assez loin. Ce référendum n'a aucun bon sens. Et comment un peuple peut-il faire preuve de courage si son chef en manque tant?
Les déboires de l'après-référendum, on les connaît. La Révolution tranquille avait libéré une énergie nationale immense. Elle se retournera contre le Québec, finalement, comme on le verra en 1981-82, quand le résultat des infinies négociations constitutionnelles aboutit, si j'utilise le terme qui circule ce temps-ci dans l'actualité, à un coup d'État en forme de refondation constitutionnelle qui fera régresser l'autonomie du Québec et surtout placera la souveraineté culturelle de l'Assemblée nationale sous la tutelle de la Cour suprême du Canada. D'une certaine manière, le vieux projet bourraciste pan-canadien, remanié par Trudeau, d'un Canada uni, coast to coast, sera récupéré par les provinces anglaises pour casser le Québec et pour en finir avec ses demandes de reconnaissance. La défaite était complète et l'affaiblissement psychologique du Québec bien ressenti, à un point tel que le souverainisme entrera dans une spirale régressive qui accélérera sa décomposition politique. Au milieu des années 1980, le souverainisme n'était plus rien et le Parti québécois de Pierre-Marc Johnson reportait l'indépendance à une échéance historique lointaine, insaisissable, impossible. Pour certains, c'était la fin, il s'agissait d'écrire la rubrique nécrologique de l'indépendance. Mais c'était sans compter le fait que les hommes font l'histoire et que ceux qui refusent la fatalité finissent quelquefois par en renverser le cours. C'était sans compter sur Jacques Parizeau. 1987, la marche reprend. L'histoire du deuxième référendum commence en novembre 1987. Suite à la mort de René Lévesque, Jacques Parizeau annonce son intention de devenir chef du PQ. Il le deviendra en mars 1988. Il a adhéré au PQ dans les mois qui ont suivi sa fondation et il en est rapidement devenu la caution économique, en plus de représenter sa tendance idéologique la plus ferme. Il est clair dans ses intentions. Il veut l'indépendance, il y consacrera son parti en en faisant sa raison d'être. La souveraineté n'est plus un objectif lointain, non plus qu'une police d'assurance, mais une exigence vitale sans laquelle le développement du Québec sera toujours entravé. La formule est connue, le PQ sera souverainiste avant, pendant et après les élections. L'homme a son caractère aussi. Si son nationalisme est viscéral et n'est pas sans connexion avec la pulsion vitale qui vient des années 20, il ne s'exprime pas de manière romantique, pour le dire avec un euphémisme. Par formation comme par tempérament, Jacques Parizeau pense la raison d'État en homme d'État. Il croit surtout que le leadership politique peut et doit créer l'histoire et impulser une direction aux événements sans toujours se mettre à leur remorque. Il faut dire que les événements viennent l'aider. Dès 1988, le régime de 1982 imposé par Trudeau confirme ses effets destructeurs et invalide plusieurs dispositions vitales de la loi 101. Ce qui provoquera une poussée de nationalisme au Québec, amenant même le premier ministre Robert Bourassa. Comme quoi, l'histoire se télescope. Amenant même le premier ministre Robert Bourassa, libéral, je tenais à le souligner pour, à cause de la suite, vous verrez. Donc, amenant même le premier ministre libéral Robert Bourassa à utiliser la clause nonobstant pour préserver l'affichage commercial extérieur unilingue français. Le premier ministre libéral utilisera la clause nonobstant pour préserver l'affichage unilingue extérieur français. Autre parenthèse liée à l'actualité. Cette mesure provoquera au Canada anglais une vague de réaction qui fera déraper en bonne partie l'accord du lac Meech, qui visait justement à réparer le désastre de 1982 qui avait exclu le Québec de l'ordre constitutionnel canadien et qui se présentait pour plusieurs comme la dernière chance de réparation canadienne. L'échec de Meech fera apparaître le deuxième homme nécessaire à la bataille référendaire, Lucien Bouchard. Le 22 mai 1990, il démissionne du gouvernement conservateur et devient député indépendant. Il est indigné par la dilution de Meech pour plaire à un Canada anglais qui veut réduire la clause de la société distincte à une simple breloque symbolique et folklorique. C'est un personnage immense, Lucien Bouchard. Il a le charisme austère, paternel et hypnotique des chefs de nation. Il a aussi le nationalisme romantique. Il n'a rien d'un technocrate. Il prétend moins modifier les structures sociales. D'ailleurs, c'est un conservateur qui a réveillé le cœur des hommes. Il en a les moyens, comme il en fera la preuve lors du référendum. Son immense culture littéraire et historique lui permet de décoder certaines nuances de l'âme humaine et de mobiliser les hommes vers de très grands objectifs. Son arrivée chez les souverainistes marque le ralliement à la cause nationale de ceux qui avaient fait le pari du beau risque et qui avaient finalement espéré la reconstruction du Canada selon le principe des deux peuples fondateurs. Un troisième homme est aussi engendré par ces circonstances exceptionnelles. C'est Mario Dumont. Tous s'entendent pour dire à l'époque qu'il s'agit d'un jeune prodige de la politique. Il vient des libéraux, des jeunes libéraux, mais il n'a rien d'un Canadien de conviction. C'est un nationaliste québécois, du genre dépassionné, mais résolu, qui considère que l'avortement de Meech devrait marquer la fin du Canada. Il engagera la commission jeunesse du PLQ sur le chemin de la souveraineté et amènera même son parti à se questionner sur sa possible conversion à l'indépendance. Je vous parle d'une époque où les ministres libéraux confessaient leurs sentiments souverainistes dans les journaux. Il jouera aussi, Dumont, un rôle fondamental lors du référendum, en incarnant la figure du fédéraliste déçu, qui voit dans la souveraineté la position de repli raisonnable, une fois constaté que le Canada sera toujours fermé aux aspirations québécoises. Si je parle de ces trois hommes, qui seront les trois chefs du camp du oui, en 95, c'est parce qu'ils touchent chacun à une certaine sensibilité nationaliste québécoise et assurent chacun l'expression de cette sensibilité dans la vaste coalition souverainiste. Il n'y aura pas une seule manière d'être souverainiste en 1995, il y en aura plusieurs. On verra plutôt des gens qui sont venus à la souveraineté par bien des chemins différents, quelquefois par des chemins contradictoires, s'unir le temps d'un référendum, faire front commun pour le pays. Mais je brûle les étapes qui nous conduisent de l'échec de Meech à la journée du référendum. Les années de l'après-Meech sont d'une intensité politique exceptionnelle dans l'histoire du Québec. Tous les scénarios sont envisagés. Le PLQ fera-t-il l'indépendance du Québec? Y aura-t-il encore des négociations entre le Canada et le Québec? Et si oui, se feront-elles à 2 ou à 11? Ce qui est certain, c'est que l'appui à la souveraineté touche les 60 % dans quelques sondages et qu'il suffirait d'un engagement clair des libéraux à la réaliser pour obtenir un consensus national d'une ampleur historique jamais vue. C'est ce qu'on appelle une fenêtre historique ou encore des circonstances exceptionnellement favorables. Je redonne le titre d'un ouvrage de l'époque, « Comment Robert Bourassa fera l'indépendance du Québec ». Évidemment, l'histoire est passée par là et on sait ce que Robert Bourassa avait en tête. Endosser partiellement l'indignation des Québécois pour mieux la faire retomber. Il s'agissait d'un grand pari. Il fallait être assez nationaliste pour être crédible auprès des Québécois et assez fédéraliste pour les détourner peu à peu de l'idéal d'indépendance, qui s'impose alors dans l'opinion publique de manière assez intense. Certains diront après coup de Robert Bourassa qu'il avait triché pour sauver le Canada et qu'il avait naufragé avec lui le Québec.
Comme l'affirme l'historien Robert Comeau dans le deuxième tome de l'ouvrage collectif « Histoire intellectuelle de l'indépendantisme québécois », Robert Bourassa est l'auteur de la plus gigantesque arnaque de l'histoire du Québec. Il a réussi à berner tout le peuple québécois en écartant le référendum sur la souveraineté, même si les offres de renouvellement de la Fédération canadienne n'étaient pas acceptables. Se basant sur le livre de Jean-François Lisée intitulé « Le tricheur », Comeau écrit « On voit Robert Bourassa en train de jouer un double jeu. D'un côté, pour les électeurs et les journalistes, il multipliait les déclarations publiques quasi-souverainistes, mais en privé, il rassurait les autres premiers ministres du Canada et les milieux patronaux et financiers. Jamais il ne tiendrait de référendum sur la souveraineté, ni ne remettrait en cause le fédéralisme.
1992, grand référendum pan-canadien de Charlottetown, consultation constitutionnelle qui se présente auprès des Québécois à la manière d'un Meech moins. Du point de vue du Canada anglais, pourtant, on votera contre. Pourquoi? Parce que malgré tout, là-dedans, il y en avait trop pour le Québec. Du point de vue du Québec, on votera contre. Pourquoi? Parce que de son point de vue, il n'y en avait pas assez pour le Québec. D'une certaine manière, le divorce commence à s'expliciter. L'élection fédérale de 1993, un an plus tard, sera révélatrice de la fracture profonde du Québec après le Canada, après la crise constitutionnelle. Le PLC revient au pouvoir en maintenant la ligne dure contre le nationalisme québécois. À sa tête, on trouve un Jean Chrétien, adversaire historique du nationalisme québécois. Le Parti conservateur, fondateur du Canada de 1867, se cassera en trois morceaux. Une partie de sa base lui demeurera fidèle. Une autre partie se réfugiera dans une droite populiste et régionaliste dans l'Ouest canadien qui s'opposera à l'hégémonie apparente du Canada central. Et sa base québécoise, la base nationaliste québécoise, se réfugiera vers le Bloc québécois, nouvellement créé par Lucien Bouchard. Surtout, le résultat de l'élection est absolument révélateur. Les Trudeauistes sont au pouvoir et le Québec est dans l'opposition, au sein même de la Chambre des communes. Le Bloc de Lucien Bouchard obtient 54 députés. Pour les indépendantistes, la solution est idéale. Dans le cas d'un oui référendaire, l'opposition officielle à la Chambre des communes est favorable à l'indépendance. Le Canada ne pourra pas prétendre que la députation québécoise à la Chambre des communes contredit l'Assemblée nationale, comme en 1982. D'ailleurs, dès son installation en poste, Lucien Bouchard profitera de ses fonctions pour pratiquer une pédagogie de l'indépendance à l'international, aux États-Unis comme en France, il va sans dire. Le souverainisme semblait sur une lancée. L'élection de 1994 suivra. En novembre, il fallait mettre un gouvernement péquiste au pouvoir et ce fut fait. Mais la victoire était inquiétante. D'abord parce que la campagne était loin d'être centrée exclusivement sur l'indépendance, comme l'aurait d'abord souhaité Parizeau. Pour se faire élire, Jacques Parizeau parlera plutôt de l'autre façon de gouverner, même s'il envisageait de tenir un référendum dans les 8 à 10 mois qui suivraient la prise du pouvoir. La vision de Parizeau était simple et j'y reviendrai. Laissés à eux-mêmes, les Québécois ne voudraient pas trancher et se réfugieraient encore dans les mesures, dans les demi-mesures et l'aquabonisme, c'est-à-dire la logique de l'aquabon. Il fallait les forcer à choisir. Il fallait, autrement dit, que le volontarisme politique prenne la responsabilité de forcer le cours des événements en donnant une impulsion singulière, une impulsion définitive au cours des choses. Il faut dire que Parizeau prépare son référendum depuis des années. L'État est mobilisé. Il arrive en poste, l'État est mobilisé. Les postes stratégiques à combler l'ont été avec des hommes de confiance aux convictions souverainistes trempées. Surtout, Parizeau n'est pas de ceux qui croient qu'il est immoral pour des souverainistes au pouvoir d'utiliser ses ressources pour faire la promotion de leur option. Il ne s'agit pas de tenir un référendum et d'ensuite de préparer la souveraineté à la va-vite si le oui passe, mais bien de préparer l'indépendance dans toutes ses dimensions pour gagner le référendum et lui donner une portée décisionnelle. Parizeau est convaincu d'une chose. On prend le pouvoir et on frappe rapidement. On ne doit pas s'habituer à la gestion des affaires courantes et se lever dans les avantages nombreux du pouvoir provincial. On gouverne pour faire l'indépendance. La souveraineté n'est pas un dossier parmi d'autres, mais bien le cœur de l'action gouvernementale. Évidemment, il avait avec lui le contexte hérité de Meech, dont j'ai déjà parlé. Mais il y avait néanmoins quelque chose d'exceptionnel chez lui, une force de volonté churchillienne, résolu à casser les événements si les événements ne lui plaisent pas. Parizeau veut foncer. Mais ses barons, comme ses lieutenants, veulent freiner. Surtout, Lucien Bouchard veut freiner aussi. Les sondages défavorables au camp du oui l'inquiètent terriblement. Au lendemain de sa maladie, il est de retour avec une conviction. Un deuxième échec référendaire serait catastrophique et il doit le stopper. Cela donnera lieu, dans les mois qui précèdent le référendum, à de sérieuses tensions. Lucien Bouchard en appellera souvent à un virage pour intégrer une dimension partenariale à la souveraineté, parce qu'il croit que les Québécois verront dans cette dimension partenariale la preuve de la bonne foi des souverainistes.
En fait, dans la tête de plusieurs nationalistes tels que André Ferretti, vice-présidente en 1967 du RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, le Parti québécois n'est pas ou n'a jamais été indépendantiste, mis à part la période où M. Parizeau l'a dirigé. Dans son essai intitulé « Le Parti québécois pour ou contre l'indépendance », publié en 1996, Ferretti écrit « Le peuple est aliéné non par tare congénitale, mais par impuissance séculaire à s'expérimenter comme maître de sa vie nationale, parce qu'on l'anesthésie avec des promesses de bon gouvernement. » Dans le tome 2 de l'histoire intellectuelle de l'indépendantisme québécois, l'économiste et professeur Louis Gilles rappelle que Jacques Parizeau, en 1980, s'opposait à l'idée de procéder par référendum. Pour lui, le Québec étant entré dans la Confédération par un simple vote de ses députés, pourquoi ne pourrait-il pas en sortir de la même façon? Pourtant, En 1995, devant un référendum gagnant, le Parti québécois prévoyait demander l'accord du Canada. Louis Gilles explique que c'est le sens du compromis d'un partenariat économique et politique sans droit de veto que Parizeau dit qu'il lui a été imposé dans le cadre de l'entente conclue le 12 juin 1995 entre le Parti québécois, le Bloc québécois et l'Action démocratique du Québec. Dans son livre « La souveraineté du Québec », Parizeau affirme que si les négociations avec le Canada avaient échoué, l'Assemblée nationale aurait eu le pouvoir de déclarer unilatéralement l'indépendance.
Peu à peu, pourtant, chemin faisant, les souverainistes parviennent à s'unir. La vision de Bouchard parvient à se conjuguer avec celle de Jacques Parizeau et même avec celle de Mario Dumont. Peu à peu, les souverainistes apprennent à faire front commun et Parizeau foncera. Mais pour vous raconter la suite des événements, je me transporte quelques mois plus tard. Oui, je me transporte le 30 octobre 1995 au matin. Ce n'était pas une journée exceptionnelle, non plus qu'une mauvaise journée, comme si l'ambivalence québécoise transparaissait dans la température. Pourtant, le peuple québécois allait se mobiliser comme il ne l'a jamais fait. On le saura au terme de la journée. 94% des Québécois iront voter. C'est immense. C'est évidemment parce que les forces en présence, les forces qui s'affrontent, touchent aux profondeurs de la cité, touchent à l'existence même du Canada et touchent aussi, quoi qu'on en pense, à l'existence du peuple québécois, qui aura peut-être trouvé, se dit-on ce matin, ces dernières années, les énergies exceptionnelles nécessaires à un acte politique créatif, l'acte de création d'un nouvel État. D'un côté, c'est donc la force populaire. De l'autre côté, c'est l'expression de la raison d'État. Le Canada ne veut pas se laisser démembrer. Il l'a clairement laissé entendre pendant la campagne, lorsque l'establishment canadien financera une grande marche pro-canadienne dans les rues de Montréal. Chez les Canadiens, on commence à paniquer. Laissera-t-on les séparatistes détruire le pays? Lors de la manifestation de la place du Canada, l'humeur était moins joyeuse que ne le rapportaient les grands médias. Il s'agit presque d'une marche d'occupation pour rappeler que les Canadiens sont partout chez eux. C'est une armée pacifique qui déferle dans les rues de Montréal. Mais c'est une armée néanmoins. De l'autre, on voit une mobilisation populaire qui va toucher les strates de la population normalement étrangère à la politique, comme si le sentiment national en dernière instance pouvait intéresser à la politique des gens qui ne s'y intéresseraient jamais autrement. Le camp du « oui » est partout présent. Il rejoint une partie du Québec Inc., il repose sur les classes moyennes, mais il atteint désormais cette fois les franges les plus dépolitisées de la population. Autrement dit, nous sommes avec un projet national qui touche tous les segments de la société québécoise. Quelle humeur domine dans le camp du oui? Quelle humeur domine ce matin? Eh bien, chez les souverainistes, les sondages sont bons. Jacques Parizeau se lève en pensant qu'il va gagner. Et Lucien Bouchard aussi. Les deux ont vu les sondages de la veille ou de l'avant-veille qui donnent à peu près 53% au camp du oui. C'est immense. C'est un peu comme si la vague qui avait suivi Meech, sans conserver la même vigueur, n'était pas retombée, finalement, et qu'elle avait libéré un désir raisonnable de faire du Québec un pays. Les Québécois ne feraient pas l'indépendance dans la frénésie, mais dans un beau calme raisonnable. Ce ne serait pas l'indépendance des révoltés ou des damnés de la terre, mais des adultes et des gens de bonne compagnie. C'est une indépendance. Ce serait l'indépendance au pays de la Révolution tranquille. L'union des souverainistes a fonctionné. Il y a quelques mois, on se demandait si le PQ ferait son référendum seul. Jacques Parizeau semblait bien isolé et on n'hésitait plus à le présenter comme un entêté téméraire prêt à parier le destin du Québec sur une aventure référendaire périlleuse, au point où son vice-premier ministre Bernard Landry s'était publiquement inquiété de la déroute appréhendée du camp souverainiste, auquel il disait ne pas vouloir s'associer. Les derniers jours de la campagne référendaire ont permis tous les espoirs. Ce qu'on a appelé l'effet Bouchard, suite à la nomination de Lucien Bouchard au rôle de négociateur en chef du camp du oui, a créé un déblocage autour de l'indépendance qui ne semble plus limité dans le seul ghetto péquiste. Il est étrange et beau, ce mouvement d'enthousiasme qui avait culminé quelques jours avant le référendum à Verdun, lorsque le camp du oui s'était rassemblé, et cela le soir où Jean Chrétien avait décidé d'occuper les ondes publiques et qu'il s'était fait donner la réplique par Lucien Bouchard. Jean Chrétien était bien décidé à dramatiser les enjeux. Si le Québec votait oui au référendum, l'indépendance serait inéluctable, n'hésitait-il pas à dire. Lucien Bouchard, quant à lui, rappelait, en tournant la page du Journal de Québec d'une journée de 1981 et de 82, pardonnez-moi, si le Québec avait été trahi ainsi en 81-82, n'était-il pas en droit, aujourd'hui, tout simplement, de restaurer son droit premier à l'existence politique, d'autant qu'on avait déchiré la constitution de ses ancêtres? Bouchard ne représentait pas le PQ habituel. D'ailleurs, il n'était pas encore péquiste à ce moment. Il représentait plutôt un nationalisme romantique, conservateur, plus traditionnel, qui touchait aux fibres premières du sentiment politique. Oui, le 30 octobre 1995, on s'attend à gagner. Mais la victoire n'est pas tout. Elle ne marque pas le terme de l'aventure souverainiste. Une victoire référendaire n'est pas le début de la souveraineté. Une victoire référendaire dégage un nouveau champ de force où le Québec devra faire preuve d'une capacité politique exceptionnelle. Si la tendance se maintient, comme on dit, une tâche immense commencera le lendemain. La négociation avec le Canada, la transition vers l'indépendance, le travail de reconnaissance internationale. Il faut fusionner les administrations, fusionner les budgets, assurer la continuité de l'État et des services sociaux qu'il dispense. Si la tendance se maintient, le Québec s'engagera dans la période la plus effervescente et la plus exigeante de son histoire. Il s'agit de faire sécession, de casser les liens avec un pays et d'en fonder un nouveau. Il faut pour cela une classe politique préparée. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit en d'autres temps Lionel Groulx, qui confiait dans ses mémoires que l'indépendance ne serait pas faite par un mouvement de jeunes et qu'il fallait pour la piloter des hommes matures qui comprennent que l'idéal ne peut pas modeler notre monde s'il ne s'accompagne d'un véritable art du pouvoir. Il faut faire tout cela. Et le Québec est prêt. Jacques Parizeau avait préparé la souveraineté et avait même préparé les moyens financiers d'assurer la transition en cas de turbulence causée par une réaction exagérément négative du Canada anglais. C'était le plan O. Les grandes institutions financières du Québec n'étaient probablement pas peuplées de souverainistes convaincus, mais un commun réflexe patriotique les traversait. Si le Québec avait à faire son indépendance, aussi bien la réussir. Jacques Parizeau craignait une réaction de mauvaise foi du Canada anglais et voulait que le Québec soit préparé à traverser la tempête sans turbulence exagérée pour les Québécois.
Jacques Parizeau avait toutes les raisons du monde de s'attendre à des réactions négatives de la part du Canada. Il se rappelait qu'en 1980, le premier ministre canadien avait déclaré que jamais il ne négocierait sur la base du livre blanc du PQ. Il se rappelait également le processus de minorisation démographique et politique du Québec à travers le rapatriement unilatéral de la Constitution en 1982, jamais signé par le Québec. Et il se rappelait également tous les échecs répétés des demandes constitutionnelles du Québec depuis les années 60. Sans doute aussi, comme Bourgault, Parizeau croyait-il que la volonté de dialogue entre le Québec et le Canada serait toujours à sens unique. Et le futur allait lui donner raison, puisqu'on aurait sous peu la preuve que le fédéral ne serait pas bon joueur en dépensant illégalement de l'argent pour promouvoir le non pendant la campagne référendaire de 1995. Ainsi, le 27 mai 2007, le directeur général des élections publiait le communiqué suivant. Option Canada et le Conseil pour l'unité canadienne ont dépensé environ 11 millions de dollars en faveur de l'option du non avant et pendant la période référendaire de 1995 au Québec. Ces fonds provenaient d'une seule source, à savoir le ministère fédéral du patrimoine canadien. Sur ce total, environ 539 000 dollars ont été engagés illégalement durant la période référendaire, soit entre le 1er et le 30 octobre 1995. Telles sont notamment les conclusions du rapport présenté aujourd'hui par Maître Bernard Grenier, mandaté par le directeur général des élections du Québec, Maître Marcel Blanchet, pour enquêter sur les allégations contenues dans le livre « Les secrets d'Option Canada » des auteurs Normand Lester et Robin Philpot.
Oui, les souverainistes sont prêts. Et le monde aussi est prêt. On s'attend presque ailleurs, dans le monde, dans les capitales, dans les métropoles, à voir apparaître un nouveau pays. À Paris, les alliés du Québec sont prêts. Alain Juppé, comme Philippe Séguin, les frères ennemis du chiracisme, se sont pourtant donné la main autour de la cause québécoise. Les deux ont demandé à ce qu'on les réveille en pleine nuit s'il y a une victoire du oui. Quelques semaines auparavant, on trinquait à l'indépendance à venir. C'est-à-dire qu'une des grandes puissances diplomatiques de la planète est prête à accompagner le Québec dans son accession à la souveraineté, ce qui n'est pas un détail quand on sait que l'indépendance d'un pays relève aussi de sa capacité à se faire admettre dans la communauté internationale. Surtout, ce qu'Ottawa laissait planer, c'était le spectre de la guerre civile, comme si l'indépendance du Québec allait virer à la nord-irlandaise. Mais il fallait aller encore plus loin et nier la légalité de la démarche indépendantiste. En résultera la loi C-20, qui met en tutelle l'Assemblée nationale et donne au Parlement canadien un droit de veto sur les termes, le contenu et la démarche d'un prochain référendum sur la souveraineté. Autrement dit, une déclaration unilatérale d'indépendance suivant un référendum gagnant serait illégale. Le droit à l'autodétermination du peuple québécois est mis en tutelle par l'ordre canadien, ce qui venait radicaliser en quelque sorte l'étau de 1982. Certains diront que la chose était inévitable. Celui qui perd ne retourne pas au statu quo, mais régresse. Surtout, cette défaite fragilise psychologiquement un peuple qui, encore une fois, avait vu ses efforts et ses énergies se perdre dans le marécage de l'impuissance. Une défaite défait. La grande offensive fédérale portera à conséquence. La culpabilisation idéologique du nationalisme sera d'une efficacité telle que les souverainistes, peu à peu, perdront leur capacité de dire le nom des Québécois, la simple mention de la majorité historique francophone passant désormais pour une forme de xénophobie, voire de racisme. Les souverainistes chercheront de plus en plus à affirmer l'identité d'un peuple dont ils ne voulaient plus dire l'identité. La culture politique post-référendaire est marquée en bonne partie par la confusion de l'ouverture à l'autre avec le reniement de soi. C'est probablement vers 1998 qu'on comprendra que le troisième référendum n'était pas pour demain et que ce qui était une question existentielle touchant l'avenir d'un peuple devenait pour les Québécois une querelle de politiciens professionnels se chamaillant pour savoir lequel des drapeaux est le plus beau, le rouge ou le bleu. Non seulement les souverainistes commencent à reculer électoralement, mais les fédéralistes avancent et définissent les termes du débat public.
La plus grande preuve de cette capitulation idéologique du souverainisme apparaît sans doute en 2005, lorsqu'une tempête éclate au Parti québécois en réaction à l'appui que donne Jacques Parizeau à la stratégie de l'analyste et militant politique Robert Laplante, rédigée sous le titre « Revoir le cadre stratégique ». Cette démarche consiste à abandonner l'idée d'un référendum et à faire de l'élection du Parti québécois le moment fondateur du processus d'accession à l'indépendance, en mettant en place toutes les institutions et réformes nécessaires à la proclamation d'indépendance. Mais comme écrit l'essayiste souverainiste Paul-Émile Roy dans « L'histoire intellectuelle de l'indépendantisme québécois », ce texte a littéralement dérouté l'establishment du parti, qui s'est alors mobilisé pour éviter que ce qui était devenu la proposition Parizeau-Laplante ne soit adopté au Congrès national de juin 2005, alors que, présenté par Laplante dans un discours lors d'un conseil national à Sherbrooke en octobre 2004, elle lui avait valu une longue ovation debout de la part de 300 délégués présents. Le PQ tenait à son mandat de bon gouvernement et refusait d'abandonner l'idée du référendum consultatif. L'approche provinciale a donc triomphé, une fois de plus.
Surtout au Québec, on entrera dans une étrange disposition psychologique. Évidemment, il fait bon vivre au Québec, mais peu à peu, le peuple québécois sera tenté par l'autodissolution, en se présentant de plus en plus comme la société québécoise. On assistera à une profonde dépolitisation du Québec, qui se perdra dans la rectitude politique, mais qui se présentera aussi comme une petite société festive, laboratoire de la mondialisation heureuse, déprise des controverses politiques fondamentales. Vu de loin, cela pouvait donner l'allure d'une étrange sortie de l'histoire, comme si d'un coup, après avoir travaillé pendant plusieurs décennies à s'affranchir politiquement, le peuple québécois ne voulait plus qu'on l'embête. Les Québécois, un par un, se repliant vers la vie privée, un phénomène qu'avait d'ailleurs repéré en son temps Denis Arcand dans son documentaire « Le confort et l'indifférence ». On connaît un peu la suite des événements. Après avoir risqué la disparition électorale en 2002, le PQ perdra le pouvoir en 2003. Il risquera à nouveau la disparition en 2007 et en 2011. Autrement dit, on assiste à la régression de la question nationale, l'espace politique s'en délivrant peu à peu pour se définir à partir de nouveaux critères et de nouveaux débats. C'est comme si finalement les Québécois se laissaient canadianiser de l'intérieur tout en préservant l'étiquette québécoise. La conséquence était fatale. Le régime de 1982 était fait pour réformer les mentalités et la conscience collective. Le régime de 1982 finira par conditionner les Québécois à une acceptation progressive du Canada, d'autant que les fédéralistes se rangeront de plus en plus sous la bannière d'un patriotisme canadien inconditionnel. C'est une étrange histoire dont le terme nous échappe toujours, finalement. Cette vaste histoire de la question nationale. Peut-on dire qu'elle se termine sur une défaite? Oui. Mais peut-on mettre une majuscule à cette défaite? Je n'oserais le faire. Celle d'un peuple, cette défaite, qui avait trouvé les énergies nécessaires pour se lever politiquement, qui a commencé la grande entreprise de redressement national, mais qui s'est ensuite divisé intimement, où il a gaspillé ses énergies, alors qu'il aurait pu s'unir autour d'un programme commun pour lui donner un rapport de force nécessaire à sa refondation politique. Et pourtant, me serait-il permis ce soir de terminer cette conférence avec une déprimante rubrique nécrologique? Non. et je dirais même jamais. Car l'histoire n'est jamais terminée. Même quand on se laisse piéger par un récit aussi beau que triste qui vient clore le parcours d'un peuple en le couronnant d'une belle stèle funéraire. Car je le demande souvent, qui pouvait prévoir en 1985 et même en 1987 que l'Union soviétique s'effondrerait paisiblement et que le communisme, auquel on prêtait encore plusieurs siècles d'existence, s'écraserait pacifiquement trois jours plus tard? Qui, en janvier 1958, alors que la France flirtait de plus en plus avec la guerre civile, pouvait prévoir que le général de Gaulle serait de retour aux affaires quelques mois plus tard et engagerait son pays dans une décennie de redressement exceptionnel? Qui, en 1938, pouvait encore miser sur le destin de Winston Churchill, antipathique bulldog biberonnant son whisky, pour devenir le sauveur de la civilisation occidentale contre la barbarie nazie qui allait se déchaîner? Oui, l'histoire est belle d'imprévus, et l'histoire du Québec l'est aussi. Il ne m'appartient pas de prophétiser ce soir quant à l'avenir de la cause nationale, mais je note une chose. L'indépendance n'était pas une lubie d'une génération, comme le répètent trop souvent ses adversaires. L'indépendance n'était pas une idée importée de loin qui n'avait rien à voir avec les aspirations profondes du peuple québécois. L'indépendance est l'expression la plus forte de la pulsion de vie québécoise, celle par laquelle un peuple s'enracine dans sa propre histoire pour se projeter vers l'universel. Notre histoire a-t-elle un sens sans elle? Aujourd'hui, les Québécois ne veulent plus vraiment le savoir. Il y a dans la vie des peuples des périodes de mobilisation et des périodes de repos. Le drame arrive quand la deuxième devient prétexte à la léthargie collective, celle d'un peuple qui accepte la défaite et en dédramatise les conséquences. L'idée d'indépendance n'est pas morte, mais elle est abîmée. Ceux qui la défendent ne sont plus capables de s'entendre, ce qui s'explique une société démocratique n'étant pas exclusivement occupée par son statut politique, les questions sociales et culturelles divisant les Québécois comme elles divisent même les souverainistes entre eux. L'idéal indépendantiste peut-il renaître? Y aura-t-il un troisième référendum? Et s'inscrira-t-il à la suite des deux autres? Une chose est certaine, il existe encore aujourd'hui des centaines de milliers de Québécois qui l'espèrent ardemment. Certains ont vécu les deux référendums et ne désespèrent pas d'en vivre un troisième. D'autres n'ont pas vécu le premier, ni même le deuxième, et ne comprennent pas pourquoi la lutte devrait être abandonnée, comme si la défaite de leur père devait nécessairement être la leur. Non, on ne sait jamais exactement de quoi l'histoire sera faite, et les prophéties qui ont le plus de chances de s'accomplir sont celles pour lesquelles on s'engage politiquement. J'aimerais terminer avec un mot de Clémenceau, qui a souvent été cité, mais que je citerai ce soir à mon tour. « Dans la guerre comme dans la paix, le dernier mot revient à ceux qui ne se rendent jamais. » Merci.
Dix journées qui ont fait le Québec, c'est 10 dates clés qui vous permettent de revivre les grands moments de notre histoire. Et c'est un rendez-vous sur MaTV et sur Illico pour tous les amoureux de l'histoire. À la prochaine.